Bonjour à tous. Si vous avez suivi un petit peu les actualités en France, vous savez certainement que durant tout le mois de mai, les députés de l'Assemblée ont débattu pendant plusieurs heures du projet de loi du ministre de l'Agriculture. Cette loi s'appelle la loi Agriculture et Alimentation. C'est un texte qui aboutit après plusieurs mois de consultations avec les différents partenaires concernés justement par ces deux domaines d'activité. Alors, ce projet donc a été présenté à l'Assemblée. Beaucoup de députés ont exprimé leur déception face à ce texte. Ils l'ont estimé relativement peu engagé et qu'il présentait uniquement des mesures minimales et que donc il ne présentait pas la révolution qui avait été annoncée par le gouvernement. Alors je voudrais maintenant revenir avec vous un petit peu sur les différentes mesures en question, celles qui ont été adoptées et puis aussi je vous citerai quelques mesures qui n'ont justement pas été adoptées. Le premier point dont on a beaucoup parlé concerne le glyphosate. Vous connaissez bien évidemment ce pesticide, il est relativement célèbre, on en parle beaucoup dans les médias, il a provoqué beaucoup de débats. Et donc c'était une promesse de campagne du président Macron. Il avait promis donc de procéder à l'interdiction de ce pesticide d'ici 3 ans, mais finalement, l'interdiction du glyphosate ne figure pas dans le projet de loi qui a été présenté. Alors, le gouvernement a été beaucoup critiqué pour cette marche arrière. On peut se poser la question effectivement de l'influence des lobbies de l'industrie chimique. Face à ces critiques, le gouvernement a répondu qu'il n'était pas obligé d'inscrire cette interdiction justement dans cette loi-là et qu'à tout moment, il pouvait prendre la décision justement d'interdire le glyphosate. Je voudrais revenir maintenant sur un deuxième point qui a été traité par cette proposition de loi et c'est une mesure qui concerne l'équilibre entre les relations. L'équilibre des relations commerciales entre les secteurs agricoles et le secteur de l'agroalimentaire. La loi essaye justement de rééquilibrer un petit peu les rapports de force. Par exemple, il va être maintenant obligatoire, quand on revend un produit alimentaire, de le revendre avec une majoration d'au moins 10%. Cette mesure cherche à éviter les promotions trop importantes qui cassent le prix des produits alimentaires de manière exagérée et qui sont bien évidemment uniquement possibles de la part des grands groupes alimentaires, puisqu'ils peuvent récupérer en quelque sorte ce déséquilibre sur d'autres produits. Certains partenaires agricoles espéraient que le gouvernement allait statifier un prix minimum pour les produits agricoles. Cela n'a pas eu lieu. Cependant, à partir du moment où la loi sera votée, ce sont les producteurs qui vont pouvoir fixer les contrats. La question reste de savoir quand même si les producteurs agricoles pourront imposer justement ces contrats à leurs partenaires de l'agroalimentaire. Je voudrais maintenant revenir sur différentes mesures qui sont censées garantir une alimentation plus saine. Il y a premièrement la suppression définitive de l'additif composant du dioxyde de titane sous forme de nanoparticules. Cette interdiction relève du principe de précaution. Elle ne concerne cependant que les produits alimentaires et pas les autres produits comme les produits pharmaceutiques ou les produits de droguerie et d'entretien. Ensuite, il y a une modification qui va être effectuée dans l'appellation des insecticides. Cette modification est importante puisqu'elle va permettre d'interdire plus d'insecticides qui sont néfastes principalement aux abeilles. Il y a ensuite une autre mesure qui introduit une obligation de 20% d'alimentation bio dans les cantines scolaires d'ici l'année 2022. Et enfin, on note aussi une obligation d'indiquer sur les étiquettes, les modes d'élevage des animaux, par exemple savoir s'ils ont été élevés en extérieur, à l'intérieur, etc. S'ils ont aussi été nourris à partir d'OGM et enfin sur les fruits et les légumes, il sera désormais obligatoire de préciser le nombre de traitements pesticides qui ont été effectués. Il y a également d'autres mesures plus spécifiques sur l'élevage. Alors, contrairement à ce qui était attendu, il n'y a pas eu d'interdiction de l'élevage des poules en cage, mais seulement l'interdiction de créer de nouveaux élevages de ce type. Et donc, on espère qu'il s'opérera une disparition progressive d'ici une dizaine d'années. La loi prévoit aussi la création d'abattoirs mobiles qui pourront donc passer d'exploitation en l'exploitation. Je voudrais maintenant revenir un petit peu sur les mesures qui étaient attendues et qui n'ont pas été votées, qui n'ont pas été prises en compte par la loi. Par exemple, la loi ne prend pas en compte la création d'un certain périmètre de protection quand on utilise des pesticides, et cela des périmètres de protection autour des habitations. Il n'y aura pas non plus d'introduction de menus végétariens dans les cantines scolaires et il n'y aura pas d'interdiction de la publicité des aliments qui sont trop gras, trop sucrés ou trop salés et qui sont destinés aux enfants. Alors la loi a provoqué de nombreux débats. Elle a montré que le fait de mettre en place ces mesures était vraiment très délicat, très difficile. Je pense pourtant personnellement que c'est plus une question de volonté politique et si le gouvernement était décidé à appliquer ces mesures, il pourrait le faire. Et pour cela, je voudrais vous présenter un exemple qui m'a paru très intéressant justement et un exemple qui, contrairement souvent à ce qu'on voit souvent, est un exemple qui a été effectué à relativement grande échelle et donc qui permettrait au pouvoir public de s'inspirer plus directement pour prendre des mesures vraiment efficaces et non pas des demi-mesures comme c'est le cas dans cette loi. Alors je voudrais vous parler de la ville de Lons-le-Saunier, qui est une petite ville dans le Jura, qui est une commune donc, de 17 000 habitants, donc d'une relative importance. Et en 1980, donc vous voyez, il y a déjà un certain nombre d'années, la ville a décidé de créer un restaurant municipal. Ce restaurant est géré par la ville, mais également par les services sociaux et par l'hôpital de la ville. Et aujourd'hui, il propose 5 000 repas par jour, et c'est une équipe de 68 personnes qui travaillent justement à la préparation de ces repas. Donc le restaurant municipal est accessible à tous, il y a une salle ouverte au public, mais bien évidemment l'importance plus essentielle de son travail est la préparation de repas pour différentes institutions de la ville. Donc le restaurant municipal prépare des repas pour les écoles, pour l'hôpital, pour plusieurs maisons de retraite, pour les services de repas apportés à domicile et également pour plusieurs cantines d'entreprises présentes dans la ville. Le restaurant municipal a introduit l'alimentation bio depuis 1999. Aujourd'hui, elle atteint le taux suivant, à savoir que 23% des aliments qui sont proposés par le restaurant municipal sont d'origine biologique et à peu près 10% des produits sont d'origine locale. Les autorités en fait, de la ville ont été motivées pour l'introduction du bio parce qu'ils avaient besoin de restaurer la qualité de l'eau de la ville. En effet, l'eau, en tout cas les nappes phréatiques de la ville, étaient contaminées par des pesticides et par des nitrates. Et donc la ville a voulu mettre en place un système qui permettrait justement de retrouver des réserves d'eau saines. C'est la raison pour laquelle elle a proposé de mettre en place différentes conventions avec les agriculteurs de la région pour les aider à modifier leurs pratiques agricoles et, dans la plupart des cas, à favoriser un passage à l'agriculture biologique. Avec, bien sûr, l'argument que la ville deviendrait le premier client de ces agriculteurs puisqu'elle a besoin de produits pour son restaurant municipal. Un cas d'ailleurs intéressant, concret, c'est un céréalier, donc un producteur de blé de la région, qui est passé en 2001 au bio et qui donc aujourd'hui alimente le restaurant en farine. Le restaurant a installé, a créé une boulangerie et donc c'est ce boulanger aujourd'hui qui fabrique l'intégralité du pain et des produits de boulangerie qui sont proposés par le restaurant municipal. Alors, bien évidemment, je pourrais vous citer d'autres exemples qui mettent justement en évidence ces principes, cette volonté politique. Comme je vous l'ai dit en introduction, c'est que cet exemple me paraît intéressant puisqu'il est à une échelle plus importante. En tout cas, je pense qu'il vous permettra de mieux comprendre mon propos, à savoir qu'à partir du moment où une volonté politique est réelle, elle peut trouver des solutions. Et d'après l'expérience que je viens de vous citer, il semblerait que personne à Lons-le-Saunier ne se plaigne justement de ces transformations qui ont été effectuées depuis maintenant une trentaine d'années. Je vous remercie de votre attention.